Chapitre 8. Patrick O'Donoghan. Ce que le docteur Schwarion Crona avait appris de nouveau n'était pas d'une bien grande importance, mais enfin c'était de nature à le lancer sur une piste. Il savait le nom de l'ex-directeur de la Compagnie des transports canadiens, M. Joshua Churchill. À la vérité, on ignorait ce qu'était devenu ce personnage depuis la liquidation de la société. Les recherches étaient naturellement dirigées dans ce sens. Qu'on arrivât à retrouver M. Joshua Churchill, et peut-être on pourrait par lui obtenir communication des anciens registres de la compagnie. Peut-être avoir ainsi la liste des passagers du Cynthia. Or, le bébé devait y être mentionné avec sa famille ou les personnes chargées de sa garde. Et dès lors, le champ des investigations deviendrait singulièrement limité. Voilà le conseil donné par le solliciteur, qui avait eu jadis ses registres en main, comme liquidateur de la société, mais qui, depuis 10 ans au moins, ne savait rien de ce qu'était devenu M. Joshua Churchill. Un instant, le docteur Schwarion Crona avait eu une fausse joie, en constatant que les journaux américains ont l'habitude de publier la liste des passagers embarqués à destination d'Europe. Il s'était dit qu'il suffirait probablement de recourir à une collection de vieilles gazettes pour retrouver la liste du Cynthia. Mais après l'expérience, l'hypothèse s'était trouvée mal fondée. L'habitude de publier ces listes étant toute récente, et datant de quelques années à peine. Les vieilles gazettes n'en avaient pas moins eu leur utilité, en donnant la date exacte du départ du Cynthia, qui avait quitté le 3 novembre, non pas un port canadien, comme on le croyait d'abord, mais le port de New York, pour se rendre à Hambourg. C'est donc dans cette dernière ville d'abord, puis aux États-Unis, que le docteur faisait présentement chercher des renseignements. À Hambourg, ils furent à peu près nuls. Les consignataires de la Compagnie des transports canadiens ne savaient rien sur les passagers du Cynthia et purent simplement indiquer la nature de son fret qu'on connaissait déjà. Eric était depuis 6 mois revenu à Stockholm quand on crut enfin savoir de New York que l'ex-directeur Joshua Churchill avait, depuis 7 ans déjà, rendu le dernier soupir dans un hôpital de la 9e avenue, sans laisser d'héritier connu, ni probablement d'héritage. Quant au registre de la compagnie, sans doute ils avaient depuis longtemps été vendus comme papier de rebut et débités en cornet par les marchands de tabac de New York. La piste ne conduisait donc nulle part, et le seul résultat de cette longue investigation fut de faire émettre à M. Bradford les sarcasmes les plus douloureux pour l'amour-propre de son ami, quoique les plus anodins au fond. L'histoire d'Eric était maintenant de notoriété commune dans la maison du docteur. On ne se gênait plus pour en parler ouvertement, et toutes les phases de l'enquête étaient discutées à table ou au parloir. Peut-être le docteur avait-il été mieux inspiré pendant les 2 premières années, quand il tenait ces circonstances secrètes, car elles offraient un aliment au bavardage de Dame Greta et de Kaïsa, en même temps qu'aux réflexions d'Eric lui-même. Et ces réflexions étaient souvent des plus mélancoliques. Ne pas connaître ses parents, s'ils vivaient encore, se dire que jamais, peut-être, il ne saurait le secret de sa naissance, était déjà chose pénible en elle-même. Mais ce qu'il y avait de plus triste encore, c'était de ne pas savoir quelle était sa patrie. Le plus pauvre enfant des rues, le plus misérable paysan, sait au moins quel est son pays et à quelle grande famille humaine il se rattache, se disait-il parfois quand il songeait à ces choses. Moi, je l'ignore. Je suis sur le globe terrestre comme une épave, comme un grain de poussière apporté par le vent, et qui ne sait pas d'où il vient. Je n'ai pas de racines, pas de tradition, pas de passé. La terre où ma mère est née, où ses restes reposent ou reposeront, peut-être déshonoré par l'étranger, foulé aux pieds par lui, sans qu'il me soit donné de la défendre et de verser mon sang pour elle. Cette pensée attristait le pauvre Éric. Dans ces moments, il avait beau se dire qu'il avait trouvé une mère en Dame Katrina, un foyer chez Master Herzebaum, une patrie à Noroé, il avait beau se jurer de leur rendre ses bienfaits au centuple et toujours être pour la Norvège le plus dévoué des fils, il se sentait dans une situation exceptionnelle. Il n'est pas jusqu'aux différences physiques qu'il remarquait entre son entourage et lui, jusqu'à la couleur de ses yeux et de sa peau, saisie au passage dans un miroir, dans une vitre de magasin, qui ne le ramena à chaque instant à cette pensée douloureuse. Parfois, il se demandait quelle patrie il préférerait dans le monde s'il avait le choix. C'est à ce point de vue spécial qu'il étudiait l'histoire et la géographie, qu'il passait en revue les civilisations et les peuples. Il éprouvait une espèce de consolation à pouvoir se dire au moins qu'il était de race celtique et cherchait dans les livres la confirmation du fait affirmé par le docteur. Mais quand le savant lui répétait qu'à son sens il était sûrement irlandais, Éric éprouvait un serrement de cœur. Quoi, de tous les peuples celtes, fallait-il justement lui choisir le plus opprimé? Si seulement il avait eu la preuve absolue, certes, il aurait aimé cette patrie malheureuse à l'égal des plus grandes et des plus illustres, mais cette preuve manquait. Pourquoi ne pas croire plutôt qu'il était français, par exemple? En France aussi, il y avait des celtes. Voilà une patrie comme il en aurait voulu une, avec ses traditions grandioses, son histoire dramatique et les principes féconds qu'elle a semés dans le monde. Oh, comme il aurait aimé avec passion, servi avec dévouement une patrie pareille. Comme il se serait senti fier de lui appartenir. Comme il aurait été pénétré d'une tendresse filiale en étudiant ses glorieuses annales, en lisant les livres de ses écrivains, en admirant les œuvres de ses artistes. Mais hélas, c'est précisément cet ordre d'émotions délicates qui lui était fermé à jamais. Il le voyait bien. Jamais ce problème de son origine ne serait résolu, puisque, après tant de recherches, il ne l'était pas encore. Et pourtant, il semblait à Éric que s'il pouvait remonter en personne à l'origine des renseignements déjà obtenus, suivre lui-même et sur les lieux les traces nouvelles qu'il serait possible de découvrir, peut-être arriverait-il à un résultat. Ce que les soins d'agent à gage n'avaient pu faire, pourquoi son activité, à lui, ne parviendrait-elle pas à l'accomplir? N'y apporterait-il pas une ardeur, une volonté de réussir que rien ne pourrait remplacer? Cette idée qui l'obsédait exerça insensiblement sur ses travaux une action des plus marquées et leur donna presque à son insu une direction toute spéciale. Comme si c'était chose arrêtée d'avance qu'il devait voyager, il commença d'étudier à fond la cosmographie, la géographie, l'art nautique, tout le programme des écoles de marine. Un jour ou l'autre, se disait-il, je passerai l'examen de capitaine au long cours, et je pourrai alors m'en aller à New York, à mes propres frais, reprendre l'enquête relative au Cynthia. Par une pente naturelle, ses causeries reflétaient ce projet d'investigation personnelle et le laissaient éclater avec candeur. Le docteur Schwarion Krona, M. Bredjord et le professeur Horstedt finirent par s'en imprégner au point de l'adopter pour eux-mêmes. Car la question de l'origine d'Éric, qui n'avait d'abord été à leurs yeux qu'un problème intéressant, les passionnait de plus en plus. Ils voyaient à quel point Éric l'avait à cœur et, comme il l'aimait sincèrement, comme il sentait l'importance qu'elle avait pour lui, ils étaient disposés à tout faire pour jeter une lueur sur ce mystère. C'est ainsi qu'un beau soir naquit chez eux l'idée de partir tous ensemble pour New York en excursion de vacances et d'aller voir par eux-mêmes s'il n'y avait rien de neuf à tirer de ce qu'on savait déjà. Qui formula le premier cette idée ? C'est un point resté obscur et qui servit longtemps de thème aux discussions du docteur et de M. Bradford. Chacun prétendait à la priorité. Sans doute ils l'eurent en même temps, car à force de la cultiver, Eric devait en avoir saturé l'air ambiant. Toujours est-il qu'elle prit corps, qu'elle fut définitivement adoptée, et qu'au mois de septembre de l'année suivante, les trois amis, accompagnés d'Eric, s'embarquèrent à Christiana pour les États-Unis. 10 jours après, ils étaient à New York et sans plus tarder, se mettaient en relation avec la maison Jeremy Smith, Walker et compagnie, d'où étaient venus les premiers renseignements. Dès lors, un facteur nouveau, dont personne ne soupçonnait encore la puissance, allait entrer en jeu. Ce facteur, c'était l'activité personnelle d'Eric. De New York et des États-Unis, de tous ces spectacles si nouveaux pour lui, il voyait surtout ce qui pouvait se rapporter à l'objet de ses recherches. Debout dès le point du jour, il courait au port, longeait les quais, accostait les navires en rade, cherchant et collectionnant sans relâche les renseignements les plus minutieux. Avez-vous connu la Compagnie des transports canadiens ? Pourriez-vous m'indiquer un officier, un passager, un matelot qui ait navigué sur le Cynthia ? Demandait-il de tous côtés. Grâce à sa connaissance parfaite de la langue anglaise, à sa physionomie douce et sérieuse, à sa familiarité avec toutes les choses de la mer, il était partout bien accueilli. On lui indiqua successivement plusieurs anciens officiers, matelots ou employés de la Compagnie des transports canadiens. Parfois, il put les retrouver, d'autres fois, leurs traces s'étaient perdues. Mais aucun d'eux ne put lui donner d'informations utiles sur le dernier voyage du Cynthia. Il fallut 15 jours de marche, de contre-marche, de recherches incessantes pour arriver enfin à un renseignement qui tranchait par sa précision sur la masse confuse des notions parfois contradictoires qu'Éric pouvait recueillir. À la vérité, ce renseignement semblait valoir son pesant d'or. On assurait qu'un matelot nommé Patrick O'Donoghan avait survécu au naufrage du Cynthia et était même revenu à New York plusieurs fois après le naufrage. Ce Patrick O'Donoghan servait, disait-on, en qualité de novice à bord du Cynthia lors du dernier voyage de ce navire. Il était spécialement affecté au service du capitaine et selon toute probabilité, il avait dû connaître les passagers de première classe qui mangent toujours à la table de l'arrière. Or, s'il fallait en juger par la finesse de ses vêtements, on ne pouvait douter que l'enfant, attaché sur la bouée du Cynthia, n'appartint à cette catégorie. Il pouvait donc être de la plus haute importance de retrouver ce matelot. Ce fut la conclusion du docteur et de M. Bradford quand Eric leur fit part de sa découverte en rentrant pour dîner à l'hôtel de la 5e avenue. Presque aussitôt, d'ailleurs, la discussion dévia, parce que le docteur voulut tirer de cet élément nouveau une preuve à l'appui de sa thèse favorite. « Si jamais un nom a été irlandais, s'écria-t-il, c'est à coup sûr celui de Patrick O'Donoghan. Quand je disais qu'il y avait de l'Irlande dans l'affaire d'Eric. » « Jusqu'ici, je n'en vois guère, » répondit en souriant M. Bradford. « Un novice irlandais à bord ne prouve pas grand-chose, et la difficulté serait plutôt, je crois, de découvrir un navire américain qui ne compta pas dans son équipage un fils de la verte Erin. » Il y avait là de quoi épiloguer pendant 2 ou 3 heures, et l'on ne s'en fit pas faute. De ce jour, Eric concentra tous ses efforts vers ce seul but, retrouver Patrick O'Donoghan. Il n'y parvint pas, il est vrai, mais à force de chercher et de demander, il finit par découvrir, sur le quai de l'Hudson, un matelot qui avait connu le dit personnage et qui put donner quelques détails. Patrick O'Donoghan était bien irlandais, natif d'Inishannon dans le comté de Cork. C'était un homme de 33 à 35 ans, de taille moyenne, avec les cheveux rouges, les yeux noirs, le nez écrasé par un accident. Un gaillard à reconnaître entre 20 000, dit le matelot. Je me le rappelle fort bien, quoique je ne l'ai pas vu depuis 7 ou 8 ans. C'est à New York que vous le rencontriez habituellement? À New York et ailleurs, mais sûrement la dernière fois c'était à New York. Vous ne pourriez pas m'indiquer quelqu'un qui me renseigna sur ce qu'il est devenu? Ma foi, non, à moins que ce ne soit le propriétaire de l'auberge du Red Encore à Brooklyn. Patrick O'Donoghan y logeait quand il débarquait à New York. Un monsieur Bowles, un ancien marin. Si celui-là ne sait rien, je ne vois pas qui pourra dire où est O'Donoghan. Eric s'empressa de sauter sur un de ces grands bacs à vapeur qui font le service de la rivière de l'Est, et 20 minutes plus tard, il était à Brooklyn. Sur la porte du Red Encore, il trouva une vieille femme d'une extrême propreté, fort occupée à éplucher des pommes de terre. « Monsieur Bowles est-il chez lui, madame ?» demanda Eric en saluant avec la politesse de son pays d'adoption. « Il est chez lui, mais en train de faire la sieste, » répondit la bonne dame en jetant un regard curieux à son interlocuteur. « Si vous avez quelque chose à lui dire, je puis m'en charger. Je suis Mistress Bowles. »« Oh, madame, vous pourriez sans doute me renseigner aussi bien que Monsieur Bowles, » reprit Eric. « Je voudrais savoir si vous connaissez un matelot nommé Patrick O'Donoghan, s'il est présentement chez vous, ou si vous pouvez me dire où je le trouverai. » « Patrick O'Donoghan ? Oui, je le connais. Il y a bien 5 ou 6 ans, par exemple, qu'il n'a pas mis les pieds ici. Et quant à dire où il peut être, ma foi, j'en serais fort embarrassée. » La physionomie d'Eric exprima un si profond désappointement que la vieille femme le remarqua et sans doute en fut touchée. « Vous avez donc bien grand besoin de Patrick O'Donoghan, que vous semblez si fâché de ne pas le trouver ici ?» demanda-t-elle. « Un très grand besoin, madame, » répondit le jeune homme avec tristesse. « Lui seul peut-être me donnerait le mot d'un mystère que je chercherai toute ma vie à éclaircir. » Depuis 3 semaines qu'Eric courait de tous côtés pour se renseigner, il avait acquis une certaine expérience des choses humaines. Il vit que la curiosité de Mistress Bowles était vivement surexcitée et se dit qu'il ne devait pas y avoir d'inconvénient à l'interroger. Il lui demanda donc s'il ne pourrait pas avoir un verre d'eau gazeuse pour se rafraîchir et sur sa réponse affirmative, entra dans l'auberge. La salle basse où il se trouvait était garnie de tables en bois verni et de chaises de paille, mais absolument désertes. Cette circonstance même enhardit Eric à entrer en conférence avec la vieille dame quand elle revint de la cave avec une petite bouteille de grès. « Vous vous demandez sans doute, madame, ce que je puis vouloir à Patrick O'Donoghan, » dit-il de sa voix douce. « Le voici. » Patrick O'Donoghan a, paraît-il, assisté au naufrage du Cynthia, un navire américain qui s'est perdu, il y a 17 ans environ, sur la côte de Norvège. Or, moi qui vous parle, j'ai été recueilli par un pêcheur norvégien qui m'a trouvé tout petit, âgé de 9 mois à peine, dans un berceau qui flottait attaché sur une bouée du Cynthia. « Je cherche O'Donoghan pour savoir s'il ne pourrait pas me renseigner sur ma famille ou tout au moins sur ma patrie. » Un cri poussé par Mistress Bowles arrêta net les explications d'Eric. « Sur une bouée, dites-vous? Vous étiez attaché sur une bouée ?» Et sans attendre la réponse, elle courut à l'escalier. « Bowles, Bowles, descends vite » cria-t-elle d'une voix perçante. « Sur la bouée, vous êtes l'enfant à la bouée. Qui se serait attendu à pareille affaire » répétait-elle en revenant vers Eric, qui pâlissait de surprise et d'espoir. Allait-il donc enfin apprendre le secret si passionnément cherché? Un pas lourd se fit entendre dans l'escalier de bois, et bientôt un petit vieillard tout rond et tout rose, vêtu d'un costume complet de gros drap bleu, la face encadrée dans une paire de grands favoris blancs, les oreilles garnies d'anneaux d'or, parut sur le seuil de la salle basse. « Quoi, qu'est-ce donc, qui a-t-il » demanda-t-il en se frottant les yeux. « Il y a que nous avons besoin de toi, » répondit péremptoirement Mistress Bowles. « Assieds-toi là et écoute, monsieur, qui va te répéter ce qu'il vient de me dire. » Mister Bowles obéit sans protestation. Eric fit comme lui, il répéta à peu près ce qu'il venait de déclarer à la bonne dame. Sur quoi la figure de Mister Bowles se dilata comme une pleine lune, sa bouche dessina un large sourire et il se mit à regarder sa femme en se frottant les mains. Elle, de son côté, ne paraissait pas moins satisfaite. « Dois-je supposer que vous connaissiez déjà mon histoire ?» demanda Eric, le cœur palpitant. Mister Bowles fit un signe affirmatif, se gratta l'oreille et se décida enfin à parler. « Je la connais sans la connaître, » dit-il enfin, « et ma femme aussi la connaît bien. Nous en avons assez souvent causé sans rien y comprendre. » Eric, pâle et les dents serrées, buvait ses paroles, espérant un éclaircissement. Mais l'éclaircissement se faisait attendre. Mister Bowles n'avait pas le don de l'éloquence ni celui de la clarté. Peut-être aussi ses idées étaient-elles encore un peu troublées par le sommeil. Avant de se retrouver dans son assiette, après avoir dormi, il lui fallait généralement deux ou trois verres d'une liqueur décorée du nom de « Pick Me Up » qui ressemblait furieusement à du gin. Ce fut seulement quand sa femme eut placé la bouteille devant lui avec deux verres que le digne homme se décida à parler. Il s'engagea alors dans une narration fort confuse, sur laquelle quelques faits seulement surnageaient au milieu d'une infinité de détails inutiles. Cette narration ne dura pas moins de 2 heures. Il fallut toute l'attention et l'ardent intérêt qui apportait le pauvre Eric pour en tirer quelque chose. À force de questions et d'insistance, et grâce au concours de Mistress Bowles, il finit pourtant par y arriver.